Vous écoutez France Culture. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Extrait de la leçon inaugurale prononcée le vendredi 8 mars 1991 par Antoine Labéry. Les progrès actuels laissent prévoir que des planètes d'étoiles proches pourraient être détectées d'ici une quinzaine d'années par des optiques dans l'espace. Devons-nous construire ces nouveaux instruments beaucoup plus puissants ? Un instinct profondément enraciné dans l'homme nous pousse à le faire. Le même instinct peut-être qui poussait l'homme préhistorique, lorsqu'il voyait une île à proximité du rivage, à construire un radeau pour aller l'explorer.
Il y a beaucoup d'animaux, vous avez des oiseaux migrateurs qui volent la nuit et qui se guident sur les étoiles. Et non seulement ils se guident sur les étoiles, mais ils tiennent compte du fait que les étoiles bougent pendant la nuit, ce qui complique les choses. On ne sait pas très bien comment ils calculent ça, mais leur cerveau fait le travail.
Ingénieur opticien et physicien, vous êtes Antoine Labéry, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'astrophysique observationnelle et membre de l'Académie des sciences. Vous avez fondé, présidé ou dirigé un grand nombre d'institutions de recherches internationales de tout premier plan et vous êtes couvert de distinctions. On a donné votre nom à un astéroïde découvert en 1978 par un astronome japonais, l'astéroïde Labéry 8788. Merci de nous accorder cet entretien qui va nous permettre de faire le point sur vos travaux en cours, mais aussi de vous connaître mieux.
J'ai eu la chance de naître dans une famille de gens qui étaient des scientifiques. Ma mère était biologiste et mon père physicien. Et donc je n'ai aucune espèce de mérite à avoir pu m'orienter dans cette voie, ça m'a évidemment influencé, bien que je n'ai pas été très, très bon élève dans les écoles et les lycées, mais le simple fait d'avoir bénéficié d'un environnement de scientifique m'a beaucoup stimulé.
Au fond, c'est devenu un langage naturel pour vous, le langage de la science.
Oui. Maintenant, ceci dit, les hommes préhistoriques, depuis presque un million d'années, faisaient déjà de la science. Vous savez, nos ancêtres, je suis très fier de nos ancêtres, il y a 700 000 ans, ils avaient inventé le feu, paraît-il. Et c'était extraordinaire, déjà, pour l'époque. Donc, en fait, c'est pas nouveau, la science. Et l'homme, en fait, est fait pour ça.
Par exemple ?
Par exemple, je sais pas, il y a une dame qui a eu le prix Nobel, il y a 20 ans déjà plus même, en observant la croissance de ses poireaux dans son jardin. Et puis, il y a d'autres exemples.
Mais alors, l'optique, c'est quand même très singulier, enfin, comme orientation.
L'optique, c'est très amusant. C'est une science amusante et facile. Hein. Et moi, en fait, c'est parce que j'ai bricolé vers l'âge de 13 ans. J'avais trouvé une vieille lunette dans le grenier de mon grand-père. Et donc, je me suis amusé à la démonter, à la casser, à la réparer, à regarder un peu les étoiles et la lune. Et puis ensuite, j'avais trouvé un vieux microscope dans une armoire. Et je me suis mis à regarder les choses avec. Et rien que ça, ça fait que quand je suis arrivé à l'âge de passer des concours pour des écoles, j'étais avantagé par rapport aux autres, simplement par le fait que j'avais été un peu introduit par hasard. Donc en fait, j'ai absolument pas de mérite d'avoir... d'avoir pu aller dans cette voie, c'est simplement parce que le hasard a voulu que j'ai été préparé, quoi, par mon environnement, ma famille, etc.
Vous avez redécouvert l'interférométrie, cette méthode dont Hippolyte Fizeau fut l'initiateur vers 1850 et qui ne fut jamais abandonnée en France. Alors, on vous l'a transmise, Antoine Labéry, et vous l'avez depuis les années 70 repensée et complètement réinventée. Alors, grâce à vous, tous les grands laboratoires du monde possèdent des interféromètres. Mais de quoi s'agit-il ?
L'interférométrie, ça a démarré il y a plus d'un siècle par des grands précurseurs qui avaient déjà commencé à avoir quelques résultats et qui avaient deviné à l'époque qu'en combinant plusieurs télescopes, on pourrait faire beaucoup mieux qu'avec un seul télescope, qu'on pourrait faire l'équivalent de ce que ferait un télescope géant aussi grand que l'ensemble des différents télescopes. On combine la lumière venant des différents télescopes et tout se passe comme si ça venait d'un seul grand télescope. Et plus un télescope est grand, mieux il voit les détails fins d'une étoile ou d'une planète lointaine. Voilà. Si vous regardez le paysage à travers un morceau de papier avec un tout petit trou d'épingle, et vous regardez à travers, vous verrez que le paysage est complètement flou. Bon, en plaçant le papier tout contre votre œil. Par exemple, un papier en aluminium, comme il y a dans les tiroirs des cuisines, vous savez.
Oui.
Faites un petit trou d'épingle là-dedans, et j'engage vivement vos auditeurs à essayer, notamment, et à montrer ça à leurs enfants. Ils verront que le paysage devient flou. Et ils verront aussi que s'ils font deux petits trous d'épingle très serrés, ils voient des choses bizarres qu'on appelle des interférences. Ils peuvent aussi faire trois petits trous, quatre, cinq, six, et ils verront que plus il y en a, mieux c'est. C'est ce que nous essayons de faire maintenant, exactement la même chose, mais à une plus grande échelle, en essayant de constituer un miroir géant formé de 10 ou 100 petits miroirs. Et donc le but serait de mieux voir ce qu'il y a sur une étoile, les taches, les couronnes, les jets, les flammes. Vous savez que le soleil a des flammes extraordinaires qui fluctuent, qui se déforment. Ben, on pense qu'il y a la même chose sur les étoiles, mais on n'a jamais pu le voir. Et ces nouveaux instruments permettraient de le voir.
Donc, avec cet instrument, que peut-on faire ?
Eh bien, on a pu, avec les premières générations de ces instruments que nous avons construits dans notre équipe, nous avons déjà pu voir sur des étoiles des détails que personne ne pouvait voir auparavant. Par exemple, il y a une étoile qui s'appelle Mira Ceti, ainsi nommé parce que c'est un tous les ans.
Et comment c'est possible ?
On pense qu'elle se gonfle et qu'elle se dégonfle. Alors ça, on a pu voir que selon la couleur qu'on regarde sur l'étoile, son diamètre diffère aussi. Bon, et puis alors, il y a d'autres étoiles, par exemple, il y a beaucoup d'étoiles qui sont en couple ou en triplet. Bien souvent, vous avez deux étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre. Hein ? Elles sont attirées par la gravitation, par la gravité, et si elles ne tournaient pas, elles s'écraseraient l'une sur l'autre. Mais du fait qu'elles tournent, elles sont satellites. Bon, alors ça, c'est connu depuis plus d'un siècle. Mais grâce à ces nouvelles méthodes, nous avons pu voir de telles étoiles beaucoup plus serrées et qui tournent beaucoup plus vite. Et ça a permis de calculer leur masse. Vous savez qu'il y a des astrophysiciens qui essayent de comprendre comment fonctionne une étoile, cette espèce de boule de feu, de bombe à hydrogène permanente qui marche en continu, en consommant de l'hydrogène. Donc ils essayent de comprendre ça, de faire des modèles physiques, et ils aimeraient bien connaître la masse de l'étoile pour voir si leurs modèles sont corrects, etc. Bon, mais on n'arrivait pas à la connaître, et grâce à ces méthodes, on a pu calculer de façon assez précise la masse de quelques étoiles, ce qui a permis aux théoriciens de vérifier leur modèle.
Extrait du cours d'Antoine Labéry, 27 mars 2013.
L'an dernier, l'année précédente, j'avais parlé de utiliser par exemple les anneaux de Saturne. Vous savez que les anneaux de Saturne, c'est un disque formé de blocs de glace ou de neige qui font un diamètre entre ça et 10 mètres ou 20 mètres. Et j'avais montré qu'en se mettant à une certaine distance et en exploitant la lumière diffractée par ces blocs, on pourrait l'exploiter pour former une image à très haute résolution d'une étoile ou de toute autre source, à condition d'être capable de mettre en phase toutes les contributions diffractées par les différents blocs. Bon, et j'avais montré qu'avec des techniques d'optique adaptative, en principe, cette mise en phase pourrait être possible. Bon, l'inconvénient, c'était que Saturne, c'est très loin, il faut des années pour y aller, ça coûte très cher, ça ne semble pas pouvoir se faire depuis la Terre, il faut quand même s'approcher un peu, au moins au 9/10 du chemin pour être bien positionné pour faire ce genre de choses. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Bon, alors il y a bien sûr quelques astéroïdes plus proches qui pourraient permettre de faire le même genre de choses, en particulier un astéroïde qui a une espèce de tempête de neige permanente autour de lui. La NASA a pu filmer, bon, il y a des espèces de flocons de neige tout autour, et on pourrait peut-être les exploiter comme occulteurs diffractants pour faire un peu le même genre de choses. Bon, mais enfin, ça n'a pas l'air très facile non plus. Bien, alors qu'y a-t-il d'autre comme télescope naturel ? Alors, vous savez qu'à propos de microscopes, les anciens s'étaient aperçus que les gouttes de rosée sur un brin d'herbe, ça fait une excellente loupe qui permet de voir d'infimes détails de la surface de l'herbe. Les anciens s'en servaient pour étudier l'herbe en question, jusqu'au jour où ils ont eu l'idée de faire des gouttes artificielles en verre, qui petit à petit sont devenues des objectifs de microscope. Alors, il se trouve que les atmosphères des planètes qui ont une atmosphère, sont un petit peu des lentilles réfractives géantes. Vous savez par exemple que sur Terre, au moment où le Soleil se couche à l'horizon, sans nuages, en fait, il est déjà couché. Il est déjà couché et on le voit par un effet de réfraction, un angle d'un demi degré à peu près, qui fait qu'on voit encore le Soleil après qu'il soit couché. Bon, si on se mettait très loin dans l'espace et qu'on regarde le même coucher de Soleil, eh bien, on verrait un bord brillant au bord de la Terre. Et en fait, si on se met suffisamment loin, il existe une espèce de foyer où tous les rayons venant de toute la circonférence de la Terre se croisent. Vous avez la Terre avec son atmosphère autour. Et vous installez un télescope très loin. Et si vous êtes à la bonne distance, eh bien, vous serez à l'endroit où les rayons réfractés de 1 degré à peu près se croisent. Et à ce moment-là, vous verrez avec votre télescope la Terre et vous verrez autour un anneau brillant.
Faites un cours depuis 10 ans qui s'intitule « Exoplanètes, étoiles et galaxies, progrès de l'observation ». Alors, les exoplanètes, c'est très à la mode. Tout le monde s'intéresse aux exoplanètes, mais que peut-on en savoir exactement ?
Alors, dans les siècles passés, les anciens Grecs, il y a 2300 ans, quelques-uns disaient « il existe d'autres mondes ». D'autres mondes, d'autres semblables mondes en tout point aux nôtres.
Giordano Bruno disait ça.
Oui, Giordano Bruno aussi. Et Giordano Bruno est peut-être le premier qui ait compris que chaque étoile est en fait une espèce de soleil très lointain, qui pourrait avoir des planètes aussi. Alors, bon, j'ai essayé de lire dans Giordano Bruno, c'est pas très clairement dit. Alors, les Grecs, par exemple, les Grecs disaient pas ça. Ils disaient, oui, il existe d'autres mondes. Ou du moins Épicure dit « on ne saurait démontrer qu'il n'existe pas d'autres mondes semblables en tout point au nôtre, etc. » Mais il ne dit pas « chaque étoile est un soleil ». Bon, or on sait maintenant depuis plus d'un siècle que chaque étoile est en quelque sorte un soleil, mais beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on ne voit pas les détails, etc. Bon, et on pense depuis plus d'un siècle que beaucoup d'étoiles pourraient, comme le soleil, avoir des planètes qui tournent autour. Bon, mais ça, on l'a découvert, on l'a confirmé seulement il y a combien ? 15 ans. Hein ? Alors, lorsque j'étais. Alors, dans les années 73. La NASA voulait construire le télescope Hubble, c'est ce télescope dans l'espace, oui. Qui devait de 2,40 m de diamètre, un peu moins grand que les plus grands télescopes terrestres qui arrivaient à l'époque à 5 mètres. C'est le diamètre qui compte pour un télescope. Mais comme ce télescope serait au-dessus des nuages, au-dessus de l'atmosphère, au-dessus de la turbulence de l'atmosphère, il verrait une image du ciel beaucoup plus nette. C'était ça l'idée. Bon, et alors à l'époque, la NASA avait fait un appel à idées pour son projet. Et j'avais répondu une page de baratin disant il faudrait fixer dessus un instrument coronographe pour voir si les étoiles ont des planètes. Bon, alors à l'époque, ça n'intéressait pas trop la NASA. Ce n'était pas un sujet à la mode, personne n'en parlait. Ils n'y croyaient pas trop. Mais enfin, j'ai quand même réussi à les convaincre de proposer à l'Europe que ce soit l'Europe qui construise cet instrument à fixer sur le télescope Hubble. Bon, et ça a été fait. Bon, malheureusement... Il y a eu une erreur de fabrication du télescope Hubble qui a fait que l'instrument n'a pas pu marcher. Par la suite, l'erreur a été réparée. Ils ont envoyé un astronaute bricoler là-haut. Et ils ont refait l'instrument. Et là, ça a marché. Ils ont découvert des planètes. Et puis, vers la même époque, on en a découvert au sol aussi par d'autres méthodes. Bon, donc depuis une quinzaine d'années, une vingtaine peut-être. Enfin, maintenant, je crois qu'on connaît plus de 1000 exoplanètes, c'est-à-dire planètes d'étoiles. C'était très très vite. Bon. Alors la grande question maintenant, c'est est-ce que certaines de ces planètes sont habitables par la vie ? Est-ce que certaines de ces planètes portent de la vie ? Bon, ça c'est une question fascinante. Des virus, des micro-algues, des champignons, des poissons, enfin on ne sait pas. Bon.
Vous pensez que c'est possible ?
Ou des plantes. Bien sûr, bien sûr. Moi je pense que c'est possible. Je crois que beaucoup d'astronomes commencent à penser que c'est possible. Mais on n'en a aucune preuve pour l'instant. Bon, alors, combien d'années faudra-t-il pour détecter ça ? Bon, alors, avec les hypertélescopes dont je parle, là, qui sont des interféromètres géants, ça devrait être en principe possible. Bon, j'ai proposé un instrument qui s'appelle Exo-Earth Imager, ce qui veut dire imageur d'exo-Terre. Bon, qui serait une espèce de flottille dans l'espace de 100 km, contenant une centaine de miroirs qui volent dans l'espace comme un vol d'oiseau.
Ça va se faire, ça ?
Il y a de grandes chances que ça se fasse un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, je ne sais pas s'il faudra 10 ans ou 100 ans, mais il y a de grandes chances que ça se fasse un jour ou l'autre, oui. Techniquement, c'est possible. On sait comment le faire, c'est une question de budget. Hein ? Bon, et on cherche des moyens de le faire pas cher. Et récemment, il y a 3 mois, j'ai proposé à l'Agence spatiale européenne une façon économique de faire ce genre de choses. Mais je crois que j'ai pas réussi à les convaincre encore.
Et c'est quoi cette façon économique ?
C'est de mettre des tout petits miroirs très nombreux, 1 million peut-être, des petits miroirs gros comme une pièce de monnaie, 1 million formant une espèce de flottille, une espèce de nappe diluée de petits miroirs, comme un vol de sauterelles, si vous voulez, dans l'espace. Chaque petit miroir étant positionné de façon ultra précise par 2 rayons de laser qui arrivent de chaque côté et qui font des interférences de lumière, et ces interférences de lumière piègent le petit miroir de façon extrêmement précise, au dixième de micron, pour reconstituer un ensemble de petits miroirs qui a une forme globale, sphérique ou parabolique, extrêmement précise. Alors ça pourrait se faire de façon relativement économique, mais ça demande pas mal d'essais en laboratoire pour préparer, pour ne pas rater son coup, ce qui sera forcément, prendra forcément au moins une dizaine d'années. En supposant que la civilisation survive jusque-là.
En l'espérant.
pour détecter des exoplanètes,
oui.
Bon, il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui consiste à regarder soigneusement l'étoile mère de la planète. Hein. Bon, pour nous, notre étoile mère, c'est le Soleil. Si cette étoile mère a des planètes qui tournent autour, ça tire un peu sur l'étoile, si vous voulez. C'est comme si vous étiez attaché par un espèce d'élastique invisible, hein, qui est la gravité, la force de gravité. Et en fait, ça tire un peu sur l'étoile et ça oblige l'étoile à bouger un petit peu. Par exemple, la Terre met un an pour faire le tour du Soleil. Et ça force le Soleil à faire un très léger déplacement. On est dans le Soleil, il n'est pas tout à fait fixe. Il bouge un tout petit peu en un an. Il fait un petit cercle en un an. Voilà. Et ce très faible mouvement, on peut le voir grâce aux méthodes de la spectroscopie qui sont extrêmement sensibles. C'est comme ça qu'ont été découvertes les premières exoplanètes par nos collègues de Genève, Mayer et Queloz. Il y a combien ? Il y a une quinzaine d'années ou un peu plus ? Ça doit être vers 1995, quelque chose comme ça. Bon, et c'est comme ça qu'ont été découvertes la plupart des autres exoplanètes depuis. Bon, alors ça, c'est une première méthode. Alors, une deuxième méthode, c'est qu'il arrive parfois qu'une exoplanète qui tourne autour de son étoile mère passe devant. C'est-à-dire qu'elle passe entre nous et l'étoile. Et alors, à ce moment-là, on voit se détacher sur le fond de... On verrait, si on avait un hypertélescope, on verrait sous fond d'un disque lumineux l'étoile, et on verrait apparaître une tache noire devant qui traverse. Mais comme la planète est beaucoup plus petite que l'étoile, on verrait une petite tache noire sur la grosse étoile. Bon, de même qu'on voit, on a vu il y a 2 ans, la planète Vénus du système solaire qui passait devant le Soleil, comme ça, et on voyait une tache noire qui est traversée. Et on ne le verra plus avant un siècle, malheureusement. Bon, donc un certain nombre d'exoplanètes ont été découvertes de cette façon-là, bien qu'on ne soit pas encore capable de résoudre l'étoile mère, c'est-à-dire on ne voit pas... On ne voit pas les détails de son disque, mais en mesurant très soigneusement sa luminosité, on s'aperçoit que pendant quelques heures, elle baisse un tout petit peu, devient un tout petit peu lumineuse, et c'est parce qu'il y a la planète qui passe devant et qui fait cette tache noire.
Maintenant, on peut découvrir beaucoup de nouvelles planètes.
Oui, maintenant, les instruments sont améliorés et on en découvre des dizaines chaque année, oui.
Et de plus en plus lointaines, je suppose.
Alors, certaines méthodes voient des planètes très lointaines. D'autres méthodes ne voient que les planètes proches de nous. Il y a maintenant des planètes assez lointaines qui ont été découvertes.
Alors, quelles sont les planètes qui vous intéressent, par exemple ?
Eh bien, écoutez, particulièrement celles qui sont habitables. Habitables, ça veut dire qu'elles sont ni trop près de leur étoile mère, ni trop loin. Trop près, elles grilleraient. La vie grillerait, et trop loin, la vie mourrait de froid.
Il faut
être à la bonne distance. Bon, la Terre, il se trouve que la Terre et Mars, dans le système solaire, sont à peu près à la bonne distance. Bon, et que si la Terre n'avait pas été au bon endroit, il n'y aurait peut-être pas eu de vie sur la Terre. Bien, la bonne distance, c'est la distance où il peut y avoir de l'eau liquide. Si c'est toujours gelé, eh bien, les animaux ne peuvent pas boire. Voilà. Alors donc, beaucoup de collègues essayent de découvrir des planètes habitables, qui sont à la bonne distance de leur étoile. Bon, et puis alors, ils commencent à se creuser la tête pour essayer de voir comment identifier des planètes où il pourrait y avoir de la vie. Et ça, c'est un problème qui les fascine. Bon, par exemple, avec ce grand hypertélescope dont je parlais tout à l'heure, qui s'étalerait sur une centaine de kilomètres, et sur des étoiles pas trop éloignées, on pourrait voir leur planète, et une planète ayant à peu près les dimensions de la Terre, on verrait les détails, on verrait les formations nuageuses, on verrait les continents, et on pourrait essayer de voir s'il y a de la verdure sur les continents. Sachant que la verdure n'est pas toujours verte, parce que vous savez, il y a des choux rouges sur Terre et puis il y a des algues brunes. Mais peut-être qu'on pourrait voir les changements de couleur dus au changement de saison. Hein? Si vous voyez une tache verte ou une tache brune qui change un peu de couleur en automne et au printemps sur la planète, à l'endroit où ça se trouve, ça prouve qu'il y a des saisons, mais ça prouve aussi qu'il y a quelque chose qui change selon les saisons. Et ça aurait de grandes chances d'être des choses vivantes. Ça pourrait être de la verdure,
des végétaux.
Extrait du cours d'Antoine Labéry, 27 mars 2013.
Qu'est-ce que c'est qu'une planète perdue ? C'est une planète qui s'est égarée en dehors de son système solaire, de son système planétaire, de son étoile, par des mécanismes qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Mais enfin, ça peut être des effets de coups de raquette de tennis gravitationnels. Lorsque vous avez deux planètes qui s'approchent l'une de l'autre et qui interagissent très fortement, par attraction, l'une peut être éjectée de son système planétaire. Bon, ça peut être aussi au moment de la formation des planètes dans la nébuleuse primitive où elles se forment. Enfin, les mécanismes ne sont pas encore très clairs. Mais il y a des tas de gens qui font des simulations de mécanique céleste pour étudier ça. Bon, alors, ils ont donc, parmi de nombreux cas d'étoiles, ils ont trouvé quelques cas où il n'y a pas d'étoiles, et la masse calculée, parce qu'on peut calculer la masse en exploitant ce genre d'observation, la masse de l'objet qui a été calculé correspond à celle d'une planète genre Jupiter. Bon. Donc il semble qu'une dizaine de Jupiters orphelins, si on peut dire, ou abandonnés, ont été détectés. Et évidemment, il ne doit pas faire très chaud parce qu'il n'y a pas d'étoiles pour les chauffer. Mais il peut y avoir de la chaleur fossile qui maintient une certaine température. Le temps de refroidissement est assez long après la formation. Bon, alors un problème de cette méthode, c'est que les distances de ces planètes sont inconnues. Bon, donc on ne sait pas si elles sont près ou loin. Et l'étude statistique montre que ces objets découverts seraient deux fois plus nombreux que les étoiles. Donc s'il y a 300 milliards d'étoiles dans la galaxie, il y en aurait 600 milliards de ces Jupiter. Alors, il serait très intéressant d'essayer de trouver les plus proches, de continuer ce genre d'observation pour en trouver d'autres, et notamment d'essayer d'élucider la question des distances et de trouver les plus proches du système solaire. Pourquoi ? Parce qu'elles seraient très intéressantes à exploiter comme télescope gravitationnel.
Vous avez fait quand même 10 ans de cours sur les exoplanètes. Alors, quel était le contenu de ces cours, Antoine Labéry ?
Eh bien, écoutez, en général, je commençais par raconter un petit peu les nouveautés de l'année en astrophysique. Les découvertes récentes, ça intéresse toujours les gens. Et puis ensuite, je parlais un petit peu des nouveautés en matière d'exoplanètes et de nos efforts de notre équipe pour construire un prototype d'hypertélescope terrestre pour l'instant, pas encore dans l'espace. Dans la première phase, on va essayer de faire un grand hypertélescope sur Terre.
Alors, vous placerez où ?
Alors, c'est une galère. on a choisi une haute vallée des Alpes, dans le sud des Alpes, dont la courbure est assez régulière et qui permet de disposer un grand nombre de petits miroirs le long de la courbure de la vallée. Et ensuite, on suspend un câble et une caméra 100 mètres plus haut qui reçoit la lumière envoyée par les miroirs qui focalise une image du ciel, d'étoiles qu'on observe, comme le ferait un miroir géant d'une seule pièce, vous voyez. Alors depuis 3 ans, nous galérons dans les Alpes, là, dans cette vallée, pour essayer de construire ça. Bon, ça commence à marcher un petit peu, mais il y a encore du travail.
Et alors, qu'est-ce que vous observez ?
Ben, pour l'instant, nous sommes à un stade technique où on commence à observer une étoile très brillante qui est Vega, parce qu'elle est très brillante, c'est que ça facilite les choses, pour apprendre à régler tous ces systèmes dont les réglages sont un petit peu compliqués. Et nous espérons, d'ici un an ou deux ou plus, que nous pourrons vraiment commencer à faire de l'observation scientifique, c'est-à-dire pour essayer de voir des choses nouvelles sur ces étoiles. Mais ce serait une première étape, si vous voulez, ce serait un premier petit prototype. faut qu'on apprenne nous-mêmes à le construire, à le régler, à l'utiliser. Et puis, il faut déjà se convaincre soi-même. Et puis ensuite, il faut convaincre les autres. Et puis ensuite, il faut convaincre les contribuables. Mais écoutez, nous avons la chance que notre projet intéresse beaucoup de bénévoles et d'amateurs qui viennent nous aider. Et leur aide est extrêmement précieuse.
Qu'est-ce qu'ils font alors, ces bénévoles ?
Eh bien, écoutez, l'hiver, ils font des grands calculs sur leur ordinateur pour nous aider à concevoir notre système, ou ils font des circuits électroniques et choses comme ça, ou de la mécanique. Et puis l'été, souvent, ils ont envie de venir dans les Alpes avec nous, avec leur tente sous le bras, et ils campent un mois ou trois mois là-haut avec nous, et ils participent à toutes les phases de construction et de tests.
Ah, donc les amateurs sont réellement très compétents.
Oui, oui, pas tous, mais beaucoup. Beaucoup sont des passionnés, et ils ont beaucoup des compétences professionnelles ou à titre professionnel dans d'autres métiers. Certains sont des électroniciens, des informaticiens, etc.,
opticiens.
Ils ont des compétences qu'ils apportent avec eux, et ils nous aident énormément.
Vous pensez que les amateurs sont l'avenir de la science ?
C'était le passé, en tout cas. Jusqu'à il y a un siècle, il n'y avait que des amateurs en science, hein, qui souvent étaient des gens suffisamment riches pour pouvoir s'y consacrer. Alors ensuite, ça s'est professionnalisé, mais maintenant, en astronomie, on peut fabriquer soi-même assez facilement un petit télescope, si on est bricoleur. Il y a des clubs qui apprennent aux jeunes à faire ça, et c'est formidable. Et maintenant, ces petits télescopes, ils peuvent même travailler tout seuls la nuit pendant que le propriétaire dort, grâce à l'ordinateur qui est branché dessus. Le gars prépare une liste, tape sur son ordinateur une liste d'étoiles qu'il veut observer, et puis toute la nuit, le télescope observe tout seul, avec une caméra, et le lendemain matin, il voit les photos. Donc c'est devenu relativement facile, et ils peuvent faire des découvertes. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui ont la chance d'avoir dans leur collège un prof qui s'intéresse un peu à l'astronomie, qui est un peu amateur, et qui apprend à ses élèves. Et il y a même des clubs comme ça où ils apprennent aux jeunes à fabriquer eux-mêmes leur télescope. Et ça, c'est formidable. Si un jeune a la chance d'avoir un club comme ça dans son secteur, c'est une chance extraordinaire. Bon, et alors nous il nous est souvent arrivé de prendre comme stagiaire des jeunes dans notre équipe qui étaient passés par là, qui arrivaient comme amateurs. Et alors ça faisait ils étaient excellents parce que ils savaient fabriquer des choses. Bon, et puis quelquefois on les envoyait arriver quelques années plus tard Rocher Polytechnique ou...
Bien sûr, oui.
Et souvent un certain nombre d'entre eux sont devenus astronomes après, professionnels.
Votre équipe est constituée de quelle manière, Antoine Labéry ?
Ben écoutez, on a quelques personnes qui dépendent du Collège de France, et puis quelques autres qui ont des... Nous avons une Algérienne actuellement qui bénéficie d'une bourse postdoctorale du Collège de France, et un Colombien qui lui aussi a une bourse postdoctorale. Et puis nous avons quelques autres collègues qui dépendent de l'Observatoire de la Côte d'Azur, par exemple, avec lequel nous avons des liens très étroits.
Donc ça fait une équipe de combien de personnes à peu près ?
Ben écoutez, c'est un peu fluctuant. Actuellement, on n'est pas très nombreux. On doit être 6 ou 7, quelque chose comme ça.
Plus donc vos amis bénévoles et...
Et beaucoup de bénévoles. L'été dernier, on était jusqu'à 14 dans la vallée des Alpes, là dans l'Ubaye. Et puis un jour, on voit arriver un jeune qui est arrivé en autostop de Bretagne, qui n'avait jamais entendu parler de notre projet, qui était arrivé là absolument par hasard, qui était étudiant en physique en Bretagne. Et puis qui est resté un mois, ça l'amusait ce qu'on faisait, il nous a énormément aidés, il est très amusant, il est arrivé absolument par hasard.
C'est quand même étrange que l'Europe ne dégage pas des fonds pour ce type de recherche.
Alors le problème c'est que les financements de la recherche, si vous voulez, c'est des comités qui distribuent les crédits, et il y a un biais bien connu de ces comités, c'est qu'ils ont tendance à financer les choses classiques. Si on leur propose un projet qui améliore un tout petit peu ce qui a déjà été fait, ça marche, on a de l'argent. Si on propose quelque chose qui est vraiment nouveau, ça ne marche pas. Ça ne coûte pas très cher ce qu'on fait pour l'instant, sauf en salaire. Par contre, si dans quelques années, nous passons à des instruments beaucoup plus grands, nous envisageons de faire un deuxième prototype, un deuxième instrument beaucoup plus grand qui pourrait avoir un miroir de 1 km de diamètre en petits morceaux. Et ce serait peut-être installé dans l'Himalaya, dans une haute vallée des Indes, entre 4000 et 6000 mètres d'altitude, ou bien peut-être dans les Andes au Chili. Bon, alors à ce stade-là, il faudra des moyens beaucoup plus importants pour le faire. Et là, on verra, mais enfin pour l'instant...
Il n'est toujours pas question d'envoyer cet instrument dans l'espace.
Alors, on ne sait pas à quel stade, on ne sait pas combien il faudra d'années pour que les agences spatiales se sentent prêtes à faire ça dans l'espace. C'est un peu à nous d'arriver à résoudre les problèmes techniques, enfin à indiquer des voies de solutions techniques, ce qu'on a commencé à faire. Mais on ne sait jamais à l'avance combien de temps ça prendra.
Que pensent vos collègues internationaux des travaux que vous conduisez ici, professeur Labéry, par exemple? Que pensent les Américains, qui sont quand même très performants, mais enfin je pense que par exemple les Chinois aussi font ce type de recherche?
Alors les Américains se sont mis en grand à l'interférométrie aussi, mais c'est actuellement l'Europe qui est championne. Hein. On peut même dire qu'en astronomie, les Américains dominaient depuis la guerre de 14, quasiment, parce qu'ils avaient construit des grands télescopes en Californie, plus grands que ce qu'on avait en Europe. Et puis maintenant, on peut dire qu'avec l'interférométrie, l'Europe a repris le dessus. Hein. Grâce notamment au grand système qui est au Chili, vous savez, où il y a quatre
mais
énormes
oui.
télescopes de 8 mètres sur une montagne. Alors à l'époque, j'avais proposé à l'organisation européenne qui construit ça de relier ces optiquement, de combiner la lumière de ces quatre télescopes pour les faire travailler comme un seul de façon
oui.
interférométrique.
Voilà.
Ce qu'ils ont fait. Et après qu'on ait fait un prototype plus petit qui les a convaincus. Et ils ont maintenant de très très bons résultats avec ce système que les Américains actuellement ne sont pas en état d'obtenir.
Quoi par exemple ?
Eh bien, par exemple, ils ont pu observer des étoiles et voir sur ces étoiles des détails, voir si elles avaient une couronne, voir si elles avaient des taches comme le Soleil, taches variables comme le Soleil, et toutes sortes de choses de ce genre.
Qui travaille en Europe sur des travaux comme les vôtres, par exemple les Allemands, vous aussi les Français ?
Ben, on a une très forte tradition en France, dont j'ai bénéficié moi-même. Il y avait un grand précurseur il y a plus d'un siècle, qui s'appelait Fizeau, qui avait lancé un petit peu l'idée à l'époque. Et mes professeurs, quand j'étais étudiant, mes professeurs m'en parlaient avec des larmes aux yeux. Et c'est évidemment grâce à eux que la tradition s'est transmise. Donc nous avons en France une très très forte tradition, oui. Alors les Allemands aussi s'y sont mis, les Italiens pas trop. Mais enfin la France est à la pointe en Europe, oui.
Extrait du cours d'Antoine Labéry, 3 avril 2013.
Il y a une ville russe qui a souffert après avoir reçu des fragments de météorites qui seraient un bloc de rocher de 17 mètres de diamètre. Et il s'est passé bien pire dans le passé. Ça, c'est une vue d'artiste de la météorite qui est peut-être la cause de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Alors vous savez qu'il y avait une grande polémique pour savoir si cette disparition était due à cette météorite géante dont on a retrouvé des traces dans le golfe du Mexique, ou bien était due au volcanisme qui s'est déclenché à la même époque. Alors, dernière nouvelle, ce serait la météorite qui aurait déclenché le volcanisme en faisant une onde sismique très violente qui serait propagée jusqu'à l'autre bout de la Terre, aux antipodes, qui aurait été focalisée par l'espèce de lentille pour onde sismique qui se trouve au centre de la Terre, qui aurait été focalisée à l'autre bout et qui aurait déclenché du volcanisme à l'autre bout. Et c'est ça qui aurait fait à l'époque les énormes éruptions du Deccan en Inde, lesquelles continuent, mais maintenant le point chaud s'est déplacé sous la croûte terrestre à La Réunion. Et ce serait cette météorite qui serait en quelque sorte l'origine du volcanisme de La Réunion. Donc il faut se dépêcher de détecter la vie sur des exoplanètes avant de recevoir une météorite sur le coin de la figure. Et l'arrivée de nouveaux instruments pourrait beaucoup aider à détecter directement ces formes de vie. Peut-être devient intelligente, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Certaines estimations disent qu'il devrait y avoir des dizaines de milliers de civilisations intelligentes dans la galaxie, parmi les 100 milliards d'étoiles, mais on n'a aucun moyen de le savoir pour l'instant. Dans un premier temps, les hypertélescopes terrestres devraient déjà permettre de gagner beaucoup pour la spectroscopie des planètes en transit. Et bien sûr, dans l'espace, on gagnera encore beaucoup plus pour former des images résolues où on commencera à voir du détail.
Parler des supernovae.
Bon, les supernovae, qu'est-ce que c'est ? C'est une étoile qui explose de façon fantastique, qui devient en quelques heures des millions de fois plus lumineuse qu'avant, et puis ça dure un mois ou deux, puis petit à petit ça s'affaiblit, et puis on ne voit plus grand-chose après. Bon, alors en l'an 1054, les astronomes de l'empereur de Chine, qui étaient perchés la nuit sur les quatre tours du palais à Pékin, voit une nouvelle étoile, très brillante, tellement brillante qu'ils continuaient à la voir en plein jour. Bon, alors ils ont noté ça dans leur carnet, et pour une fois ils étaient d'accord sur ce qu'ils avaient vu, parce que vous savez que tous les matins l'empereur interrogeait ses quatre astronomes, il leur demandait ce qu'ils avaient vu, ils interrogeaient séparément, il leur demandait ce qu'ils avaient vu, et s'ils n'étaient pas d'accord, ils les mettaient à mort, paraît-il. Bon, mais là, apparemment, ils étaient d'accord.
L'horreur.
Et ils ont noté exactement la position de cet objet par rapport aux constellations. Bon, et en retrouvant ces vieux papiers, on s'est aperçu, et en pointant un télescope exactement à cet endroit-là, il y a combien, il y a 50 ans ou 60 ans, on s'est aperçu qu'il y avait un truc bizarre à cet endroit-là, une espèce de nuage lumineux, qu'on a appelé la nébuleuse du crabe, et on s'est aperçu que c'était le reste de l'explosion qu'avaient vu les Chinois.
Bon, et puis ensuite. Ans après, alors.
Oui, à peu près, oui. Et puis, il y a combien ? Il y a 30 ans, on s'est aperçu qu'il y avait une petite étoile au milieu de ce nuage, une petite étoile très faible, pas visible à l'œil, et on s'est aperçu qu'elle s'éteignait 30 fois par seconde avec la régularité d'une horloge. C'est ce qu'on a appelé le pulsar du crabe. Bon, et les théoriciens ont dit que ça devait être une espèce de gyrophare. Vous savez, sur les ambulances, une espèce de phare qui tourne, là, vous voyez, qui s'allume et qui s'éteint. Et ils ont dit, bon, ben voilà, c'est une espèce de gyrophare naturel. Il doit y avoir une étoile extrêmement petite, qui fait 30 tours par seconde, comme une toupie, et il doit y avoir un côté plus brillant que l'autre. Et comme ça, on la voit qui s'allume et qui s'éteint. Bon, et on pense toujours que c'est ça, et c'est ça qu'on appelle le pulsar du crabe. Et alors, ce serait une nouvelle forme de matière inconnue sur Terre, qui serait des neutrons, c'est-à-dire les atomes seraient tellement comprimés que les électrons rentrent dans les noyaux et que les noyaux ne contiennent plus de protons, mais des neutrons, seulement des neutrons. C'est une matière des millions de fois plus dense que la matière la plus lourde qu'on ait sur Terre. Bon, alors il ne faut peut-être pas trop que je rentre dans les détails.
Non, mais si, mais c'est formidable parce que ça ouvre vraiment toutes sortes de perspectives.
Bon, alors pourquoi est-ce qu'on parle de supernovae ? Ah oui, parce que les astronomes essayent de voir, de repérer le plus vite possible quand il y a une nouvelle supernova, de la repérer le plus vite possible, l'observer le plus vite possible, parce que ça ne dure pas très longtemps après, et que les phases initiales sont très intéressantes à observer. Bon, mais c'est pas fréquent du tout. Il y en a une par siècle et par galaxie. Alors dans notre galaxie, vous savez, notre galaxie, c'est une espèce de dessin qui contient 100 milliards d'étoiles. Une fois par siècle, il y a une supernova qui apparaît. Bon, mais dans les autres galaxies extérieures, beaucoup plus lointaines, beaucoup plus difficiles à voir, beaucoup plus faibles, il y a aussi des supernovae qui apparaissent. Bon, et beaucoup de gens sont à l'affût pour essayer d'être le premier à les repérer. Et à ce moment-là, immédiatement, ils envoient un télégramme dans le monde entier pour prévenir tous les astronomes, pour pointer leur télescope dessus. Bon, et il y avait un champion de ce genre de sport, de ce genre de découverte, c'était un papy japonais qui tous les soirs se mettait sur son balcon dans sa chaise longue avec une grosse paire de jumelles et tous les soirs regardait le ciel et à force, il connaissait par cœur toutes les constellations. Et il les connaissait tellement par cœur, beaucoup mieux que les astronomes professionnels. Il les connaissait tellement par cœur que dès qu'il y avait une étoile en trop dans une constellation, il le voyait tout de suite. Et quand il y avait des étoiles en trop, bien souvent, c'était une supernova. Mais alors, un jour, les Américains en ont eu marre de se faire damer le pion par ce papy japonais. Et ils ont dépensé quelques millions de dollars pour construire un télescope automatique, un mètre de diamètre, avec un ordinateur, etc., qui balayerait le ciel automatiquement toutes les nuits et qui verrait lui-même automatiquement s'il y a une étoile en trop dans une constellation. Alors, ça a marché, mais moins bien que le papy japonais.
Ah oui, pourquoi? Oui.
Bah, il était plus efficace, il connaissait le ciel par cœur. Voilà. Donc les amateurs font des découvertes.
Ce que vous disiez aussi sur cette nouvelle matière, on a l'impression que justement dans l'espace, on va découvrir de plus en plus de matières nouvelles. Par exemple, il y a ces fameux trous noirs dont on ne sait pas exactement de quoi ils sont composés. Donc au fond, ça va élargir aussi la composition de la matière, non?
Oui. Mais oui, dans certains endroits de l'espace, il y a des conditions physiques qui n'existent pas sur Terre, des températures extrêmes ou des densités de matière extrêmes qui produisent les trous noirs dont vous parlez. Et de ce point de vue-là, ça aide à comprendre comment fonctionne l'univers, ça donne des idées aux physiciens. Bon, c'est que les rayons cosmiques ont permis d'énormes progrès en physique nucléaire. En montrant des choses qu'on ne savait pas faire sur Terre. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, oui.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Antoine Labéry, titulaire de la chaire d'astrophysique observationnelle. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goyemé. Rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Pierre Brun et son cours consacré aux techniques et économies de la Méditerranée antique. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.